Vous êtes avec SBS French.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
L'Alliance française de Sydney organise ce mercredi 10 avril 2024 un philo-bistro sur Augustine Soubéran, l'une de ses fondatrices. Et justement, il y a un peu plus d'un an et demi, en septembre 2022, nous avions interviewé sa biographe, Nelly Duré. En marge du philo-bistro, nous vous proposons donc de découvrir ou redécouvrir cette interview tournée, on le rappelle, il y a un peu plus d'un an et demi, c'était en septembre 2022. Et le philo-bistro, c'est donc le 10 avril à 18h15, dans les locaux de l'Alliance française de Sydney. Toutes les informations sont à retrouver sur le site internet www.afsydney.com.au/watson/philobistro. Bonne écoute, messieurs, dames.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Augustine Soubéran, née en 1858 et décédée en 1933, l'une des fondatrices de l'Alliance française de Sydney. Pour parler de cette femme au destin hors du commun qui a beaucoup fait pour la communauté française ici en Australie, nous sommes en ligne avec l'écrivaine Nelly Duré, qui a écrit sa biographie après une enquête sur son itinéraire. Nelly, bonjour.
Bonjour, bonjour à tout le monde.
Nelly, parlez-nous plus en détail d'Augustine Soubéran.
Alors, lorsque j'ai découvert Augustine Soubéran, à partir d'un petit article en 2005, j'ai eu un coup de foudre pour la femme, pour son itinéraire. Parce que voyez-vous, j'habite le village où elle est née. Elle est née à l'école de Saint-Jean-du-Gard en 1858 parce que son père était instituteur à Saint-Jean-du-Gard. Donc, Augustine va passer son enfance dans cette école et moi qui ai un parcours de pédagogue, je me suis absolument passionnée par l'itinéraire de cette femme qui perd ses parents très tôt, très jeune, qui est prise en charge par des oncles filateurs qui vont l'envoyer étudier à Lausanne. Alors pourquoi Lausanne? Parce que nous sommes ici à Saint-Jean-du-Gard dans les Cévennes très protestantes où on a des liens privilégiés avec la Suisse et l'Allemagne, bien sûr, depuis la révocation de l'édit de Nantes. C'est-à-dire que lorsque on fuyait la persécution du roi Louis XIV, on partait en Suisse. Donc, la Suisse protestante a toujours accueilli les enfants de Saint-Jean-du-Gard pour des études. C'est tout à fait normal. Lausanne, Genève, ce sont des villes dans lesquelles les Saint-Jeannais étudiaient, les notables Saint-Jeannais. Donc, elle étudie à Lausanne. Elle a un beau bagage intellectuel, elle est férue de littérature, elle adore la littérature, elle la pompe par tous les pores de sa peau. Et la littérature française, elle lui voue un amour fou. Bon, il faut travailler. Alors, on le dit à l'époque, au 19e siècle, pour une femme seule, une jeune fille seule, c'est ou la voie de la courtisane, et là, pour cette protestante, n'y pensons même pas en rêve, où c'est l'enseignement. Voilà, il n'y a que deux voies. Donc, elle se place comme gouvernante en Angleterre, au Royaume-Uni et évidemment en Écosse. Pourquoi l'Écosse? Parce que l'Écosse est presbytérienne, c'est-à-dire l'équivalent du calvinisme français. Donc là, elle a les codes. Alors, elle parle un anglais impeccable, évidemment, appris à Lausanne, et elle a des codes sur la religion pratiquée en Écosse. Or, la place de gouvernante, et si on a lu Charlotte Brontë, les sœurs Brontë, on le sait, la place de gouvernante n'est pas enviable. Vous êtes trop d'un niveau trop élevé par rapport à la domesticité et d'un niveau trop inférieur par rapport au maître. Vous êtes entre l'arbre et l'écorce, voyez-vous. Alors, évidemment, on est mal. Et cette fille, qui a un orgueil extraordinaire, elle dit « les Soubérans sont toujours en tête de la parade ». C'est-à-dire, ils mènent toujours le défilé, ils sont toujours en tête, les Soubérans. Ici, à Saint-Jean-du-Gard, c'est des familles qui ont pignon sur rue. Donc, les Soubérans, ils vont pas vivre dans le servage, je vais dire, voilà, ni dans la domesticité. Donc, pour elle, elle envisage un départ. Et imaginez-vous qu'à cette époque-là, et vous le savez mieux que moi, l'Australie peuplée d'hommes, alors d'anciens bagnards, d'anciens forçats, de chercheurs d'or, etc. L'Australie a besoin de femmes. Donc, le passage sur les bateaux est gratuit pour les femmes. Alors là, notre Augustine, aventurière dans l'âme, elle a 20 ans, elle prend le bateau et la voilà partie sur les océans. Elle traverse, donc elle part de Sous-Tampomme et elle arrive à Sydney. Et là, elle va faire son trou parce qu'elle est intelligente, elle a un bagage intellectuel. Elle va rencontrer une amie, Louisa Gurney, avec laquelle elle va monter l'école de Kambala. Et je crois que c'est une école toujours très connue à Sydney, me semble-t-il, une école avec laquelle j'ai eu des liens. Et cette pédagogue née, qui avait donc passé son enfance dans l'école primaire de Saint-Jean-du-Gard avec des parents qui étaient des pédagogues, une tante qui était institutrice, elle a un bagage extraordinaire pour réussir. Avec Louisa, donc cette école prend de l'ampleur. Quel est le but de l'école? C'est d'ouvrir aux filles une carrière qui les mène à une égalité avec les garçons. Et ça, évidemment, elle a une longueur d'avance. Surtout ici, dans nos Cévennes, où le patriarcat est quand même très lourd encore aujourd'hui. Donc, cette Augustine va mener une brillante carrière et elle va porter très haut les couleurs de la France, de son pays natal. Et comme elle disait, j'ai perdu, alors là je la cite, j'ai perdu mes parents très jeunes, tout ce que j'avais dans le cœur de tendresse et de dévouement filial, c'est à mon pays, la France, que je l'ai donné. Mais très vite, elle va être complètement franco-australienne. Et ce qu'elle avait d'amour pour la France, elle va le donner à l'Australie en cherchant à tisser des liens sans cesse entre la France et l'Australie. Qu'elle soit avec le couple Playoust et avec le consul de l'époque, qu'elle soit une des fondatrices de l'Alliance française, ne nous surprend pas parce qu'elle veut faire rayonner la culture française. Donc, cette Augustine mène une vie culturelle très dense. Elle fréquente, bien entendu, à l'époque, les milieux léniers. Et ces milieux, dans ces milieux-là, elle tisse des liens.
Donc, vous l'avez dit, Nelly, elle a fondé l'Alliance française. Elle a d'ailleurs été deux fois présidente en 1910 et ensuite en 1921 pour deux ans. Pour l'anecdote, sachez qu'il y a seulement six femmes qui ont été présidentes de l'Alliance française de Sydney. Augustine a reçu la Gold Medal par l'Alliance française de Paris en 1911. On sait également qu'elle a participé grandement à la reconstruction de la France depuis l'Australie après la Première Guerre mondiale. Ça a consisté en quoi concrètement?
Alors, imaginez-vous que cette femme extraordinaire va vendre son école avec Louisa. Elles vendent leurs écoles pour prendre une retraite bien méritée. Et quand, à quelle date vendent-elles leur école? Imaginez-vous, juin 1914. Donc, aucun repos possible. Pour elle, la France va être envahie. Il faut repartir au front. Et elle va monter avec un trio de choc de femmes, Marie-Thérèse Playoust, Augustine Soubéran et Louisa Gurney vont monter la Ligue, la Help, c'est ça? Je le dis bien? Ligue Help of Australia?
C'est parfait.
Franco-australienne. Oui. La Ligue d'entraide franco-australienne. Voilà. Donc, une ligue qui va lever un trésor de guerre extraordinaire. Alors, Augustine commence par faire des manifestations pour récolter de l'argent. Alors, par exemple, dans la Town Hall à Sydney, elle monte un spectacle avec des jeunes filles de Kambala, et puis elle vend les drapeaux des nations emportées dans la guerre aux enchères, et puis elle a des tas d'idées. Et puis, elle va monter des ateliers pour faire tricoter des pulls verts avec la laine australienne, des chaussettes à quatre aiguilles, attention, et puis des chemises, et puis, alors elle fait des paquets, elle met des petits mots dans les paquets, tricotés par vos amis, etc. Et elle envoie tout ça en France pour que ce soit distribué aux poilus, aux soldats dans les tranchées. Alors très vite, ça devient ingérable. Donc Marie-Thérèse Pleyel-Huyst, qui était présidente, part à Paris et reçoit à Paris les colis faits qui partent d'Australie. Alors elle écrit à notre amie Augustine, nous avons besoin de ceci, nous avons besoin de cela, et Augustine entreprend de servir la cause et d'envoyer ce dont on a besoin et de vraiment être au service de Marie-Thérèse qui lui inscrit un plan de campagne. Voilà. Donc, elle continue à faire tricoter, à envoyer des colis, mais elle lève des fonds. Et cette levée des fonds avec des causeries qu'elle fait à droite, à gauche, elle remue ciel et terre et elle lève un trésor de guerre qu'elle va envoyer en France, et elle ne l'envoie pas en fait, elle va le ramener en France, elle. Et donc elle arrive en 1917 en France, et évidemment, elle, ce qui l'intéresse, ce n'est pas tant le poilu dans sa tranchée que les veuves de guerre et les enfants, parce que son cœur saigne. La veuve de guerre, elle n'a rien pour vivre, et l'enfant non plus. Donc elle monte deux orphelinats avec la Ligue d'entraide franco-australienne, et ces orphelinats évidemment vont être de suite remplis. Et puis elle va s'entremettre avec des députés, elle va lier connaissance, et en particulier avec l'un, c'est Albert Mettin, qui est député du Doubs et qui est donc adjoint au blocus. Et ce député, qui a une place extrêmement importante, avec Augustine, a de suite un contact. Parce que lui est un homme qui est géographe, qui a voyagé en Australie, qui adore l'Australie. Et de suite, ils mettent sur pied comme un plan Erasmus d'échange avec des étudiants qui seront, des échanges qui seront mis en place après la guerre. Et puis il continue son travail et décide de mettre sur pied une grande mission diplomatique qu'on appellera mission du général Pau. Et cette mission diplomatique comprend des agriculteurs, des économistes, des militaires, 16 hommes qui sont des références et des lainiers, bien entendu, des économistes et spécialistes de la laine. Et cette mission ne comprend qu'une femme, Augustine Soubéran, pédagogue, et elle va partir donc en juillet 1918 de France. Elle rejoint l'Angleterre où elle est reçue par le premier ministre anglais le 14 juillet, puis elle traverse l'Atlantique, arrive à New York où elle est encore reçue avec enthousiasme, et cette mission à l'aval de Clémenceau, l'homme politique fort du gouvernement français, hein. Elle traverse les États-Unis en train, elle arrive à San Francisco. Et à San Francisco, le chef de la mission, c'est-à-dire Albert Mettin, cet homme politique, décède brutalement. Elle est reprise immédiatement par le général Pau, qui avait perdu un bras pendant la guerre de 1870. Et elle arrive avec une espèce d'enthousiasme délirant à Sydney sur un bateau, le Sonoma, et cette arrivée est saluée par la population avec vraiment des débordements de joie. Et immédiatement, ce sont des visites de l'Australie qui commencent. Et le général Pau et Augustine Soubéran vont faire des séries de causeries. Lui, le général, raconte la façon dont les soldats australiens se battent avec un courage extraordinaire dans les tranchées. Et donc, il rend hommage à ces diggers, ces soldats qui soutiennent et qui vont d'ailleurs en juillet 1918 bloquer l'armée allemande. Et c'est la fameuse histoire de la ferme du Mouquet, les Villers bretonneux, etc. Des victoires australiennes phénoménales. Et elle, Augustine, parle aux mamans, aux mères qui perdent leurs enfants sur le sol français. Elle s'adresse à, et elle parle des veuves françaises, des orphelins français, Et il y a un moment d'émotion intense par la parole de cette femme. Et l'argent qui est levé, le trésor de guerre qui est levé par le général Pau et Augustine, c'est absolument extraordinaire. Et donc, Augustine revient en France pour rapporter cet argent à ses frais. Et elle va loger en France, toujours à ses frais. Et elle va se mettre à visiter les régions dévastées, parce que nous sommes à ce moment-là, en 1919. Et en 1919, elle fait les visites de ces villages, dont un village, Poilcourt. Alors, quand je dis dévasté, il faut bien imaginer que la guerre n'est pas une guerre de mouvement, et c'est une guerre de tranchées. Donc, deux armées se sont enterrées face à face, et c'est l'engagement à la baïonnette, la sortie de la tranchée, pour gagner 4 kilomètres, en repère de 5, en regagner 7, et ceci pendant 4 années. Les Allemands ne passeront pas. À Verdun, vous avez ce colosse qui regarde l'Allemagne et qui dit « Vous ne passerez pas ». C'est la statue de Verdun. Les Allemands ne sont pas passés. La France n'a pas été envahie grâce au courage des Australiens, évidemment, des Anglais, des Américains, bien sûr, et des Français qui, depuis 1914, bloquent. C'est le hachoir. Les hommes sont hachés dans une guerre sans nom. Et pour nous, Cévenols, c'est la fin de la Cévenne parce que c'est toutes les campagnes, la fine fleur des hommes, des campagnes qui sont morts, explosés sous les sols, sous les cieux plombés de Verdun, c'est absolument effroyable. Et donc, c'est 1 400 000 morts pour la France, 1 400 000 jeunes qui ne feront pas de foyer. Et pour la France, on paie toujours cette guerre actuellement. Donc, elle voit ces villages, le village de Poilcourt a été pris, repris, français, allemand, 7 fois. Il reste, c'est un village en ruine. Et pour le remonter, il faut non seulement remonter les ruines, mais il faut des troupeaux, il faut des tracteurs, il faut redonner une vie à ce village, refaire l'école, refaire... Et alors, elle a l'idée de le jumeler avec Sydney. Et elle jumelle la ville de Poilcourt, le village de Poilcourt, avec Sydney.
Nelly, si vous le voulez bien, on va faire un saut dans l'histoire, un saut dans le futur. On va laisser derrière nous le début des années 1900 et on va bondir aux années 2000 et même très précisément 2022. Encore plus précisément, cette semaine, ce samedi 17 septembre 2022. On le disait en sommaire, il y a les journées du patrimoine. Et ce samedi, c'est une date un petit peu particulière puisqu'une place de la ville de Saint-Jean-du-Gard va être renommée en l'honneur d'Augustine Soubéran. Racontez-nous d'une pourquoi cette place va être renommée, mais également en quoi cela n'avait rien d'évident dans un premier temps.
Eh bien, ma chère Marianne, vous avez mis le doigt sur la cicatrice qui fait mal. C'est-à-dire que quand moi j'arrive en Cévennes, je suis avignonnaise en fait, hein, ça s'entend à mon accent. Et lorsque j'arrive en Cévennes, je m'aperçois avec surprise, parce que en Provence, c'est pas du tout la même chose. Ici, on est en Languedoc, dans les Cévennes. On dit la Provence chante et le Languedoc combat. Et donc, la région ici protestante, austère, et la vie est beaucoup plus difficile et je m'aperçois que le patriarcat est dominant. On me dit, nous ici, on applique Proverbe 31. Alors, Proverbe 31, c'est la femme vertueuse. Elle se lève le matin, elle fait ceci, elle fait cela. Elle travaille toute la journée et puis ça se termine. Pendant ce temps-là, son mari palabre aux portes de la ville. Alors, c'était tout un programme. Pour moi, qui arrivais donc de province, je dis, c'est pas possible. Vous n'avez aucun nom de femme qui honore une rue ou une place du village. Il faut absolument féminiser un peu cet espace, l'espace public. Alors, on me répond, mais il n'y a pas de femmes qui ont fait des choses intéressantes à Saint-Jean-du-Gard. Bon. Parce que le village, à part le nom de Carnot, porte que des noms de Cévenols. Alors, il n'y avait pas une Cévenole qui avait fait quelque chose d'intéressant. Voilà pourquoi je sors Augustine Soubéran de l'ombre, je fais une enquête, j'écris sa biographie, je sors le livre et je vais voir le maire de Saint-Jean-du-Gard et je lui dis « Maintenant, vous n'avez pas de raison de ne pas féministe. Oui, mais bon, alors il y avait une petite impasse quelque part là, loin, dans les faubourgs, et ils vont l'appeler impasse des fileuses. Et ils me disent, tu es contente, Nelly, nous avons appelé impasse des fileuses, nous avons féminisé notre espace. Non, je n'étais pas contente, mais pas contente du tout. Je pensais qu'on se moquait de moi. Donc, j'ai demandé que la plus grande place, la place qui, sur laquelle est installé notre temple, alors le temple, c'est 500 places ici, hein, plus le monument aux morts, un monument aux morts pacifiste, magnifique, fait par un grand artiste marseillais, une statue monumentale de 6 mètres de haut. Donc, notre monument aux morts, cette grande place, qui est la place de l'école et qui est la place sur laquelle est née Augustine, que cette place change de nom. Elle s'appelle Sadi Carnot, qui est le nom d'un président de la République, mort assassiné par un anarchiste. Donc, on lui avait donné, dans l'émotion du moment, on lui a donné à cette place le nom de Sadi Carnot, mais qu'il fallait la débaptiser et l'appeler le nom de femme. Donc, je propose Augustine Soubéra. Ah là 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 là, 3 années de combat. 3 années pour moi, jusqu'à ce qu'on arrive en juin à un vote. Alors, je vous donne le résultat du vote pour rire. 10 voix pour, 6 voix contre, 2 abstentions. Rien de glorieux là-dedans, mais n'empêche que nous l'avions quand même emporté. Et toutes les femmes de Saint-Jean-du-Gard, les citoyennes saint-jeanaises, heureuses, heureuses. Et nous décidons avec l'adjointe à la culture qui est Hélène Gallo, une femme extraordinaire. On a une adjointe jeune, professeure de musique et dynamique et fabuleuse. Donc, cette jeune adjointe dit, nous allons faire ça sur les fêtes du patrimoine. Donc, nous allons le 17 septembre, fête du patrimoine national. Nous allons fêter le monument aux morts parce que il a été inauguré, imaginez-vous, le 17 septembre 1922. Et ce magnifique monument aux morts pacifiste, parce que il représente la liberté guidant les peuples, c'est-à-dire, on reprend le personnage du tableau de Delacroix et on a un drapeau, donc femme, qui à l'antique, habillée, vêtue à l'antique, avec ce drapé long, porte et brandit le drapeau qui ondule comme une flamme derrière elle. Et alors que dans le tableau de Delacroix, elle élève un fusil, là, elle porte un glaive qu'elle plante dans le sol, c'est-à-dire on ne le sortira plus. Et avec son pied, son immense pied, parce qu'elle a 6 mètres de haut, elle écrase le fût d'un canon. Donc, c'est une très, très belle statue. Et moi, j'invite d'ailleurs tous les Australiens qui ont envie de passer en Cévennes. Je sais que vous connaissez bien les Cévennes depuis le film d'Antoinette en Cévennes. Mais il faut venir, vous savez que Stevenson termine son voyage à Saint-Jean-du-Gard. Il faut venir à Saint-Jean-du-Gard voir ce grand temple de 500 places et cette immense statue qui porte 111 noms, 111 noms. 111 foyers qui ne se feront plus. Pour nous, pour Saint-Jean-du-Gard, c'est terrifiant, le chiffre. Et donc, on va fêter le centenaire du monument mort. Et puis, nous avons un parcours parce que, bon, dans l'année, j'avais travaillé sur un parcours touristique pour les touristes qui arrivent et qui puissent se repérer dans Saint-Jean. J'ai donc fait 28 plaques qui ont été installées par la mairie et pour faire un parcours historique dans Saint-Jean-du-Gard. Alors, vous l'avez compris, je suis historienne, évidemment, évidemment. J'ai fait des études à l'université d'Aix-en-Provence en histoire et en littérature d'ailleurs. Voilà, et donc c'est pour ça que j'aime l'histoire.
Merci beaucoup Nelly, je rappelle, vous êtes écrivaine, auteure de l'ouvrage Augustine Soubéran, une sénévole et philanthrope féministe en Australie, paru aux éditions Ampelos. Merci beaucoup.
Au revoir à vous tous.
Vous écoutez Le Français sur Radio SBS.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.